Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le 27 juillet 2018, dans la banlieue de Moscou, trois sœurs de 17, 18 et 19 ans assassinent leur père dans son sommeil. L'histoire est macabre, le geste monstrueux, mais les jeunes filles reçoivent une vague de soutien en Russie. Plusieurs manifestations s'organisent pour défendre les sœurs Khatchatourian. Une pétition récolte même 250 000 signatures pour réclamer la clémence des juges. Jusque-là, les trois filles vivent seules avec cet homme qui a chassé leur mère et leur frère de la maison, interdisant à ses filles de les voir. Les violences sont quotidiennes. Le père les bat si fort qu'elles manquent l'école pour éviter qu'on ne remarque les hématomes sur leur corps. Parfois pour s'amuser, le père tire sur les filles avec un pistolet à air comprimé. L'histoire dit aussi qu'il en abuse sexuellement. Les alertes n'ont pourtant pas manqué. Avant de quitter le domicile familial, la mère a déposé une main courante pour violence. Les voisins ont prévenu la police. Mais rien ne s'en est suivi. En 2016, l'aînée a fait une tentative de suicide. Le jour du meurtre, l'une des sœurs est attaquée par son père au gaz lacrymogène. C'est apparemment l'événement déclencheur qui conduit ces trois jeunes filles à décider de tuer leur père. Dans la nuit, elles attendent qu'il soit endormi et se répartissent les armes. L'une l'asperge avec du gaz lacrymogène, l'autre le frappe à coups de marteau et la troisième le poignarde au couteau. Elles appellent ensuite la police, sont arrêtées, inculpées pour meurtre en bande avec préméditation. Elles attendent actuellement leur procès. Leur affaire est devenue un symbole de la lutte contre les violences domestiques en Russie. En 2017, le pays, en effet, a dépénalisé les violences commises contre un conjoint ou contre des enfants si elles ne nécessitent pas d'hospitalisation et ne se produisent qu'une fois dans l'année. À méditer. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires de violences familiales dans lesquelles le père est coupable du pire. Une émission à ne pas laisser traîner dans toutes les oreilles, qui est signée Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Gwendoline, j'ai 31 ans. Je suis née à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Et puis maintenant, je suis dans le Béarn. C'est une belle région. Ma mère et moi, quand je suis née, on habitait avec ma tante. C'était ma tante qui s'occupait de moi, mon lit était dans sa chambre, ma mère dormait dans la chambre d'à côté. La nuit, c'est pas ma mère qui se levait, c'était ma tante. Le lien affectif et physique s'est beaucoup fait avec ma tante. Pendant tout ce temps, j'ai aucune connaissance de quoi que ce soit par rapport à mon père. Je suis partie vivre avec ma mère vers mes 4-5 ans. Ma mère, c'était quelqu'un qui était très indépendante, qui était contente, je pense, d'avoir son premier appartement. Et elle avait refait les peintures, elle-même, toute seule. Elle avait posé du parquet. Et là, nos rapports, c'est là qu'ont commencé. On a eu de rapports juste exclusivement, elle et moi. Pendant toute cette période-là, ma mère, forcément, était obligée de s'occuper de moi. Mais elle ne s'occupait pas de la même manière que ma tante. Il n'y avait pas de regard de bienveillance. C'était des regards bruts et froids. Des fois, elle me parlait sans me regarder. Quand des fois, elle m'appelait, par exemple, « Hey, grosse tête, viens là !» Ou « Hey, hey, viens là, toi !» Elle ne pouvait pas me voir dans son champ de vision. J'étais très triste. Et puis, j'étais une enfant très, très sage. Je ne bougeais pas, très polie, je ne courais pas partout. J'étais pas la petite fille qui allait, pourtant j'étais très curieuse, mais je ne pouvais pas, j'étais sous la peur. Voilà, c'était le sentiment qui me dominait constamment, c'était la peur. Comme un animal un peu. C'était vraiment les réflexes de protéger la tête quand quelqu'un passait devant moi. Ou voilà. J'avais pas le droit de jouer, j'avais le droit de rien faire, donc on se concentre sur l'environnement, enfin les bruits quoi. Ne serait-ce que quand l'ascenseur s'arrêtait et que j'entendais, sa manière, je sais pas, de marcher ou comme ça. J'arrive à savoir si elle arrivait énervée ou si, quand la manière d'ouvrir la porte avec la clé, rentrer, j'essayais de jauger un peu pour voir qu'est-ce qui allait se passer. En une minute, même pas, des fois quelques secondes, tout pouvait changer. Quand on rentrait, en face, il y avait directement la salle de bain. On faisait deux pas de plus, il y avait une autre porte sur la gauche, les toilettes. Et en face, c'était la cuisine. Il y avait une salle à manger, côté salon, et un côté chambre où elle avait un lit. Et entre les deux, dans ce salon, il y avait une grande porte, et c'était ma chambre. Quand elle me tapait, c'est souvent à l'entrée. Après, ça se prenait aussi dans la salle à manger, ça pouvait être dans la chambre. Disons que chaque mur, je les ai connus, même physiquement. Donc, pour un oui, pour un non, juste le fait de me voir, des fois je passais devant elle, c'était une claque. Ou elle passait à côté de moi, elle me poussait. Puis si elle s'énervait, après c'était parti pour qu'elle me tape jusqu'à temps que j'aille dans ma chambre et que je sois plus dans son champ de vision, quoi. Elle m'enfermait dans la chambre et elle partait sa journée. Elle fermait les portes, des fois elle mettait du scotch à l'extérieur pour voir si j'avais bougé la porte. Elle arrivait en pleine nuit. Donc elle rentrait. C'était pour une... Apparemment, j'aurais mangé des bounties dans une boîte cachée, mais c'était un prétexte parce que je n'ai pas touché, je suis même pas sortie de la chambre, quoi. Et là, elle a ouvert ma porte de chambre, mais je dormais, Je dormais complètement. Elle m'a attrapée par les cheveux, en fait, je me suis réveillée en sursaut. J'étais en train de me faire traîner au sol. Et elle m'a tapé. Plus d'une fois, elle m'a couru derrière avec un couteau. Enfin, ma mère, c'était vraiment ça, elle voulait me tuer. Elle le disait, je vais te tuer. Tu me pourris la vie, je veux plus de toi, je vais t'abandonner, il faut que je fasse quelque chose, je peux plus. C'était les termes. Mais la plupart du temps, c'était des coups directement, les ceintures, ou m'attraper les cheveux, elle me pinçait. À l'époque, on portait beaucoup les Santiago, les chaussures pointues devant avec derrière le fameux truc en fer. Et elle portait ces fameuses Santiago. Et je sais que c'est. Elles font très très mal parce que ma mère, elle me tapait avec ça. Mon quotidien ressemblait pas à la petite fille de mes voisins, quoi. Aux yeux des gens, ma mère était très dure avec moi, c'est tout. L'école se posait pas forcément plus de questions, rien du tout, pas d'alerte. Pourtant, j'étais souvent absente. J'ai vu ma mère dans des états, elle était droguée, elle était complètement défoncée, où j'ai même pas pu paralyser, j'ai même pas pu faire quoi que ce soit. Elle disait qu'elle voulait me placer. Et là, il y a eu une fois où j'ai cherché dans l'annuaire. Et j'ai dit, tiens, je te donne le téléphone, vas-y, appelle-les. Appelle les services sociaux. Elle a pas voulu parler. Et j'ai pris le téléphone, moi j'ai parlé. Il y a eu une essentielle qui a débarqué. Je me suis retrouvée au foyer. À 12 ans. Et c'était très compliqué pour moi. La première année au foyer, c'était très compliqué. Je vivais avec d'autres personnes. Fallait savoir dire bonjour le matin. Je savais plus dire bonjour le matin sans me sentir agressée. Personne ne me disait bonjour auparavant. Je me réveillais. Il n'y avait pas ce rapport-là de simplicité. Je commence tout doucement à me sociabiliser, à me faire une vie, à aller à l'école. En fait, ce que j'espérais dans cette période-là vis-à-vis de ma mère, c'est que j'espérais qu'elle change, qu'elle arrête de se droguer et qu'on arrive à nouveau à repartir ensemble, parce qu'elle avait quand même droit à une visite par mois. Alors, elle est venue deux fois, et les deux fois, elle était défoncée et elle a dormi. Elle m'appelait rarement, elle m'avait appelé, je crois que c'est deux ou trois fois. Et là, je romps les liens avec ma mère par nécessité. Voilà. C'était pour moi un soulagement, même si j'étais triste. Ensuite, les années passent. Je prends mon autonomie à mes 17 ans. J'ai vécu en appartement. J'ai mon bac. Et un jour, on m'a appelé. C'était ma tante. Elle me dit, c'est au sujet de ta mère. Voilà, ta mère, elle est morte. Elle me dit, elle s'est suicidée. Je savais qu'un jour, on allait m'appeler pour m'annoncer son décès. Mais j'étais prête, j'étais préparée à ça, donc j'ai pas eu de choc. C'est triste à dire, mais ça m'a pas étonnée. La tristesse que j'ai ressentie, c'était de la tristesse de dire quel dommage, quel gâchis. Un peu des regrets de ne pas avoir pu parler avant. Quand je l'ai enterré, personne n'est venu. C'est simple, hein, dans l'église, il y avait moi, le prêtre et mon conjoint. On était en train d'enterrer ma mère, mais dans ma tête, j'étais pas présente. J'étais en train de refaire mon histoire avec ma mère. Je rentre le soir. J'appelle ma tante. J'ai dit, voilà, je suis bon, on a enterré ma mère. Et j'étais froide. Je lui dis que je veux savoir toute l'histoire de ma mère. Elle me fait, mais tu connais déjà l'histoire de ta mère, tu sais comment elle était. Je lui dis, non, tu m'as mal compris. Je veux savoir l'histoire de ma mère de sa naissance jusqu'à ma venue. Chez la suite, je la connais, je l'ai vécue. Donc elle a commencé à me raconter l'histoire de ma mère. Jusqu'au bout d'un moment qu'elle me dit la rencontre avec mon père. C'était un monsieur qui avait eu un coup de cœur pour ma mère, qui était parti voir mon grand-père pour lui demander l'autorisation d'inviter ma mère à boire un café. Elle part en début d'après-midi. Et quand elle est revenue de ce rendez-vous, elle n'était pas bien. Elle est partie se laver. Et ma tante lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et ma mère, c'est ma mère qui lui dit, il m'a violée. Et sujet clos. J'étais là. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Et je faisais que répéter ça. Ah d'accord. Ah mais c'est pour ça alors. Voilà, je comprenais tout. Je comprenais tout ce qui s'est passé, toute mon histoire, quoi. Ça engendrait plein de choses au niveau de mon identité. L'image, elle devait revivre constamment ça, et moi. Est-ce que je suis horrible? Est-ce que je représente cet acte? Ce mal, en fait. Ma mère avait voulu avorter, hein, mais sa famille, elle dit non. C'est hors de question que tu avortes chez nous, ça se fait pas. Le fait que je sois une enfant née d'un viol, je reste encore... abasourdie, je suis née d'un viol. Ça a un effet dégoûtant. Mais je n'ai pas envie de me sentir dégoûtante. Mon but, justement, c'est d'avancer et d'être dans les choses positives pour aller à l'opposé de ça. À mes yeux, ma mère, elle est morte de ça, de ce viol. Du coup, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais cet homme, il l'a pas payé, en fait. Lui, ça va, il vit tranquille, tout va bien pour lui. Comment je pourrais me venger pour ma mère? Il fallait que je me venge et il fallait que je trouve le moyen de lui faire payer, quitte à lui détruire toute sa vie. Mon père biologique s'appelle José. Les informations que j'avais, c'était ma tante qui me les avait données. Elle n'était pas sûre du nom de famille, d'où il venait, du métier qu'il avait fait. C'est pas grave, j'ai cherché, j'ai fait mon enquête moi-même. Je me faisais passer pour une notaire. Une notaire qui appelait par rapport à un héritage que ma mère aurait laissé pour telle personne et que je cherchais cette personne-là, justement. Je peux même pas dire combien d'appels j'ai fait, j'ai dépassé 300 appels, hein. Je pense que j'étais sur la bonne voie. Au bout d'un moment, j'aurais fini par le retrouver. Mais j'ai pas été jusqu'au bout. Peut-être par peur de le rencontrer, de voir qui c'est, et de ma réaction. Par peur de ce que je serais capable de faire. Est-ce que j'aurais été capable de rester aussi calme, aussi patiente, d'attendre de le rencontrer devant un tribunal? Aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être aussi une excuse parce que j'avais peur de ce que j'aurais été capable de faire.
Je m'appelle Léna, j'ai 51 ans. Je suis l'aînée de la fratrie. On est 6 en tout. Ma sœur Emmanuelle est décédée. Elle s'est suicidée, elle avait 25 ans. On vivait dans un climat de torture et de barbarie. Mon père, c'était un alcoolique. Quand il devenait fou, il nous attrapait une par une. Il nous jetait en bas des escaliers. La seule chose à laquelle on pensait, c'était vite se lever pour pas recevoir ta sœur sur la tronche. Je n'ai jamais eu de jouets. Je n'ai pas eu de musique. Je n'ai pas eu d'enfance. Dès que je pouvais partir de la maison, j'étais heureuse. J'adorais l'école. Et j'ai eu des professeurs qui ont senti quelque chose en moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux me parler. Mais non, on ne fait en aucun cas voir les choses. On est des soldats, des bons soldats. Pour mon père, il ne fallait surtout pas se plaindre. C'était comme ça. J'obéissais. Donc les gens ne voyaient pas. Un jour, ma mère, elle n'était pas à la maison. Je n'avais pas été à l'école. Et mon père, il était dans sa chambre et il prenait sa bouteille de vin et il tapait sur le sol. Et là, ça veut dire tu montes parce qu'il a besoin de toi. Donc tu montes et tu montes vite. Donc je monte et là, il me dit viens là, monte dessus. Monte dessus, monte dessus, comment monte dessus? Fais viens, je vais te faire voir. Donc je monte, je fais et après, il a pressé sur mes hanches. La douleur, il faut la vivre pour comprendre. T'as l'impression que tout ton corps se déchire. C'est quelque chose de brûlant. Ça te brûle, ça te fait mal. C'est... Je croyais mourir. Et il a fait 2-3 va-et-vient. Et il a dit, après tu te lèves, tu vas te laver. Et quand j'ai vu qu'il y avait autant de sang, j'ai eu peur. Je me suis lavé. Et il m'a dit, si tu dis ce secret... Je ferai la même chose à tes sœurs. J'avais 13 ans à l'époque. C'était la première fois. Quand tu subis ça, la vie, elle est différente. Il y a quelque chose qui se brise en toi, t'es plus une enfant. Après, ça s'est reproduit régulièrement, pendant un moment, quasi toutes les nuits, parce qu'il y avait soi-disant pas assez de lits. Donc je dormais avec mon père, ma mère dormait dans sa chambre avec ma sœur Marcia. Voilà la composition de la famille. Donc vite, j'ai appris à me mettre en mode, je suis pas là. Il peut faire ce qu'il veut, je suis qu'une poupée de chiffon. Je ne ressens plus rien, ni aucune douleur. Et ça pouvait lui prendre n'importe où. J'étais dans le hangar et d'un seul coup comme ça, allez, vas-y, baisse ta culotte, hop. Et ça a continué, ça a continué. Et je savais qu'il ne s'arrêterait pas. Je lui appartenais. Il m'a enfermée dans la cave. Maman, elle pouvait rien faire. Elle tapait à la porte. Ça va? Oui, ça va. Ma chérie, je suis désolée. Je sais, maman. Ma mère avait peur. Elle était battue. Elle était maltraitée par mon père. Elle a été malmenée. Je me suis barrée, il fallait que je parte. Je n'encaissais plus les tortures. J'ai fugué à 13 ans. À 13 ans, il m'a retrouvée. Ensuite, quand j'ai fugué à 16 ans, j'avais suivi un copain que j'avais rencontré. Il m'a retrouvée. Et il a menacé mon copain à l'époque, Jean-Luc, avec une arme. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je rentre, je viens avec toi. Il a laissé Jean-Luc, il a laissé partir. J'ai plus jamais eu de nouvelles. Et un jour, j'ai eu 18 ans. J'ai dit, là, la police, elle pourra pas me rechercher. J'ai préparé un sac à dos de survie. Je l'avais planqué en dessous des vélos rouillés et tout pour pas qu'ils le trouvent. Je suis passée par ma fenêtre. Je me suis fait mal à la cheville en partant parce que j'ai sauté. J'ai piqué des sous sur le vide-grenier parce que je faisais les vide-greniers, ils nous faisaient travailler. J'avais cet argent, j'avais mon sac à dos et mes jambes. Et je suis allée me changer les cheveux. Je me suis coupé très court les cheveux et orange fluo, j'étais... Et oui, on recherche une grande brune avec les cheveux longs, pas une orange fluo avec les cheveux courts. J'ai perdu 10 kilos parce que tu crèves de faim quand t'es dans la rue. Donc c'est dur. Je suis restée à peu près 2-3 mois et après, j'ai attendu dans une cabine téléphonique après avoir répondu à une annonce de travail pour vendeuse en chocolaterie. Ça fonctionnait. Et le papa de cette dame qui m'a embauchée, il avait un appartement de disponible. Lui, il louait des appartements et j'ai eu mon premier nid de coucou qui était à moi, mon petit chez moi. Il était meublé. Voilà. Je démarrais comme moi je l'entendais, et là, la liberté. Une nouvelle vie. J'ai travaillé et j'ai rencontré le père de mes enfants. C'était quelqu'un de fantastique. Il m'a mis en valeur, il m'a protégée. Mes 6 enfants, je les ai désirés. Je voulais une grande famille. Mon père m'a appris avec les coups. Je sais faire un nombre de choses parce qu'il m'a appris en me frappant, en me contraignant. Moi, je sollicite mon enfant pour qu'il apprenne en douceur. Je ne suis pas mon père, je suis moi. Quand j'ai eu ma vie à moi, j'ai contacté ma mère pour la rassurer, lui dire « Je ne suis pas morte, ne t'inquiète pas, il ne m'est rien arrivé, j'ai des enfants. » Et je pense que mon père a dû faire pression sur ma mère pour qu'elle lui dise où est-ce que j'étais. Donc ma mère qui m'appelle en catastrophe, oui, j'ai dû lui dire « Tu sais comment il est ton père ?» J'ai été oubliée. « Ok, t'inquiète maman, ça va aller. » Et entre deux, ma mère qui me dit « Ben, il travaille au collège ou au lycée, je sais plus quoi. » Oh ! Il est en contact avec des adolescents. Il est en contact avec des adolescents dans un collège. Je dis « Maman, je devais avoir 25 ans. J'ai des bonnes fréquentations et j'ai des mauvaises fréquentations. J'ai demandé à mes mauvaises fréquentations de me fournir une arme parce que j'ai appris les armes. Mon père a eu un lot d'armes. Je pouvais, à 10 pas, toucher la tête d'une allumette. Je suis une bonne tireuse. » Avec une arme, je l'ai attendue. Qui sortent de son travail. J'ai pas trouvé d'autre solution pour arrêter la chose. Parce que je me suis dit, de toute façon, on va pas me croire, je vais aller voir une assistance sociale, ça va mettre 3, 4, 5 ans, 10 ans, je vais aller voir un juge, je vais aller voir un avocat, je vais expliquer mon histoire, ce que j'ai vécu, mon ressenti. Mais c'est que du ressenti, madame, vous n'avez pas de preuves. Mais bien sûr qu'on n'a pas de preuves. Alors tant pis, je fais. Je l'ai attendu, j'ai tiré. Il est tombé. Il était à vélo, il sortait. Moi, je passais en voiture à côté. J'avais un petit FAMAS semi-automatique. Je me suis mis à la fenêtre et j'ai tiré dessus. Je n'ai pas tremblé, j'ai pas eu d'émotion particulière. J'étais trop calme. Je ne ressentais rien. Comme le mode poupée, en fait. La seule chose que j'ai vérifiée avant de tirer, c'est qu'il n'y avait personne dans la ligne de mire, entre mon flingue et mon père. J'ai fait demi-tour pour repasser devant pour voir s'il se levait, s'il était bien mort. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait le bras levé. On peut peut-être encore le sauver. Tire pas. Tire pas. Et j'ai tiré. Parce que là, t'as la douleur. Ça fait comme une plaque d'égout, en fait. Et puis d'un seul coup, tu la débouches et tout remonte. 5 balles, 8 impacts. Mais il n'est pas mort. Ce soir-là, il y avait le meilleur chirurgien qui était de garde. Donc du coup, il a été opéré dans l'ambulance. Ça lui a sauvé la vie. Avant le procès, je suis rentrée en prison. Lui, il était côté homme, moi j'étais côté femme. Dans la cour, tout le monde est ensemble. Il y a peut-être, je sais pas, 200 mètres, on les voyait. J'ai été en préventive pendant 5 mois et 3 semaines. Le jour du procès, moi je suis dans le box des victimes et lui dans le box des accusés. Et après, lui, il est dans le box des victimes et moi dans le box des accusés. Tentative d'assassinat. Lui, il a pris 18 ans. Aux yeux de tout le monde, ça a été reconnu. C'est ça qui m'a réparée. Et moi, j'ai été condamnée à 5 ans de sursis et 10 ans de mise à l'épreuve. Lui, il est décédé en prison parce qu'il a attrapé un cancer généralisé. Il y a quelques émotions qui me viennent et qui me troublent. Mais, non, on remet ça dans la boîte. Mon père, il existe dans mon passé, mais il n'existe plus dans mon futur. J'ai fermé la porte.
There's something I forgot. Walk slow and I'll catch up. Let's hear the stars do their talking.
C'était La haine du père, un reportage de Valérie Borst réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Gwendoline et à Leïna, à Laurence Sismadia-Giro et à Corinne Chauvel. C'est Camille Richir, l'attachée de production des Pieds sur Terre.
To that pink sky, remember that bright hollow moon, showed our insides on our outsides. This town closes down the same time every day. Put out the smoke. Let's put all these words away. Let's put all these words away. St. Paul, and I go running when the night aches. I hear every time she calls. Did I hear something break? Was that your heart or my heart? Like when the earth shakes. Then the silence that follows.